Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. François Hollande en campagne ce matin dans le journal Les Échos. Il défend son bilan économique et dessine son programme. Une manière de ne plus cacher ses intentions pour l'an prochain. Nous lirons cette interview avec Marie Viennot.
François Hollande également très ferme sur la loi El Khomri. Il évoque un nouveau recours au 49-3. Hier, le gouvernement a fait de légères concessions, pas suffisantes selon les syndicats.
Un renoncement de plus pour la gauche à l'Assemblée. Les députés ont enterré hier les récépissés pour les contrôles de police. Un moyen de lutter contre les contrôles aux faciès. Mais une initiative difficile à faire passer auprès d'une police très sollicitée en ce moment.
Et à l'étranger, la Turquie accuse Daesh d'être à la manœuvre dans le triple attentat suicide de l'aéroport d'Istanbul. Pas de revendication, mais une signature indéniable, selon Ankara.
Et l'Écosse pourrait redemander son indépendance pour pouvoir rester au sein de l'Union européenne, conséquence du Brexit. La chef du gouvernement écossais est venue plaider sa cause hier à Bruxelles. Il ne cache plus ses intentions. François Hollande, ce matin dans les colonnes du journal Les Échos, a tout d'un président en campagne pour sa réélection l'an prochain. Le chef de l'État dresse son bilan, positif selon lui, et promet quelques cadeaux. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
On se souvient du « ça va mieux » du début de l'année. Là, François Hollande persiste et signe. Il dit « il y a bien une reprise en France et un début d'inversion de la courbe du chômage. C'est un fait indiscutable », martèle-t-il. Défense du bilan et programme pour 2017 dans la foulée, Marie.
Oui, c'est une interview fleuve, hein, de pleine page. Le chef de l'État y évoque quasiment tous les sujets, tous les problèmes, notamment ceux qu'il n'a pas pu régler jusque-là, mais pour lesquels il a des idées bien précises. Cela ressemble effectivement à l'avant-première d'un programme qu'il aurait pour 2017. Sur l'Europe, il propose un budget de la zone euro pour financer les investissements dans les secteurs d'avenir, une gouvernance économique de la zone euro, enfin, souligne-t-il, ou même une meilleure régulation des salariés détachés pour éviter la concurrence déloyale. Autant de sujets sur lesquels il n'a pas complètement la main, puisque cela dépend des autres pays européens, et qui feront donc partie de ses propositions pour refonder l'Europe après 2017, forcément, car il n'y a aucune chance pour que ces idées aboutissent avant la présidentielle. Sur la France, il reconnaît que la classe politique n'est pas assez diversifiée, parle de non-cumul des mandats dans le temps, façon d'éviter les carrières politiques qui s'étalent sur des décennies. Il parle aussi d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent. Rien de très original, me direz-vous, mais c'est une façon de répondre aux critiques actuelles. Ensuite, sur l'économie, plus précisément, les promesses d'avenir concernent surtout l'année 2017, celle sur laquelle il a encore prise. Et là, c'est un festival de cadeaux fiscaux aux classes moyennes qui bénéficieraient, je cite, d'une mesure encore à définir. Aux entreprises, le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sera augmenté. Les impôts baissés pour les PME et les artisans et la prime à l'embauche prolongée en 2017. Tout cela sans déroger aux réductions de dépenses pour tenir nos engagements européens. Oui, tout cela en même temps, c'est possible avec François Hollande, grâce à la croissance. Pas un mot en revanche sur l'écologie. La COP21 a disparu de ses radars.
Alors voilà donc le programme économique du candidat Hollande, un candidat président qui fait montre de fermeté, notamment quand il est interrogé sur la loi El Khomri.
Oui, il n'y a aucune incertitude sur la loi El Khomri, affirme François Hollande. Elle sera votée, promulguée et s'il n'est pas possible de trouver une majorité, il sera, je cite, de nouveau recouru à l'article 49.3. C'est très clair, le chef de l'État veut montrer qu'il s'est tranché sur tous les sujets. D'ailleurs, les travaux de l'aéroport de Nantes vont être engagés et la ZAD sera évacuée. Par rapport à la City de Londres, ce n'est pas négociable non plus. Le Royaume-Uni va perdre le passeport européen financier qui lui permet d'être un acteur majeur de la finance en euros sans pour autant faire partie de la zone euro. À ce titre, François Hollande reconnaît que Paris a des atouts pour récupérer une partie de l'activité qui se faisait outre-Manche. Il parle même, je cite, d'adapter nos règles, y compris fiscales, pour rendre la place financière de Paris plus attractive. La finance ne devrait donc plus faire partie de ses ennemis en 2017, mais qui désignera-t-il alors comme cible pour enflammer les foules? Dommage qu'il n'y ait pas de bookmakers en France, on aurait pu lancer les paris.
Marie Viennot, merci beaucoup. La loi travail, on l'évoquait il y a un instant ensemble, cela reste une épine dans le pied de François Hollande dans sa course à un second mandat. Et difficile après 4 mois de bras de fer de déminer le dossier. Manuel Valls et Myriam El Khomri recevaient hier les représentants de la CGT, de FO, de la CFDT et de la CFTC. Le gouvernement a fait quelques concessions, pas suffisantes pour les centrales, car sur le fond, les blocages persistent. Jean-Marc Chardon.
Une tentative de rééquilibrage autour d'un dispositif qui continue de générer des oppositions tranchées.
Pour tenter de renouer le dialogue, le gouvernement a fait un pas de côté. Plutôt que de toucher à l'article 2 portant sur les accords d'entreprise, véritable totem au centre de la polémique, il a déplacé ses propositions sur un autre, l'article 13 relatif aux branches. Et cela dans un mouvement parallèle aux propositions de la CFDT appelant à une négociation dans chaque branche. En allant ainsi vers un renforcement des branches dans l'édifice de la négociation entre partenaires sociaux, on élargirait le socle des droits communs. Un levier pour éviter que des accords d'entreprise tirent le droit vers le bas sur les salaires, les classifications, l'égalité professionnelle, la pénibilité, la formation professionnelle aussi, et donne cours à une surenchère qui s'apparenterait à du dumping social. Sauf que le champ d'application ne fait pas consensus, trop limitatif pour les opposants, qui voudraient inclure les heures supplémentaires, le temps partiel, le travail de nuit. Reste que le principe d'un socle protecteur à partir des branches est bien en marche et avec lui une possible régulation. C'est l'esprit de compromis qui est à l'œuvre. Encore faut-il du temps pour désamorcer les critiques de ceux qui repoussent depuis le début le nouveau modèle social.
Emmanuel Valls et Myriam El Khomri poursuivent les consultations cet après-midi avec le patronat, MEDEF, CFE-CGC, CGPME et UPA. Le projet de loi sera de nouveau discuté à l'Assemblée nationale à partir de mardi prochain, le 5 juillet. Hier, au Palais Bourbon, les députés ont abandonné une demande de longue date de la gauche. Ils ont rejeté l'expérimentation des récépissés de contrôle d'identité, une manière de lutter contre les contrôles aux faciès, mesure défendue par une partie de la gauche, refusée par le gouvernement et combattue à droite. Car aujourd'hui, dans un contexte de menaces terroristes et de manifestations à répétition contre la loi travail, il s'agit de ne pas contrarier davantage la police. Mais l'abandon des récépissés, c'est tout un symbole, Claire Chaudière.
Oui, le symbole des renoncements du quinquennat en matière de lutte contre les discriminations. En soi, l'abandon de l'idée de récépissé de contrôle d'identité est tout sauf une surprise, mais c'était hier la dernière fenêtre et elle s'est refermée, refermée par ceux-là même qui portaient une solution de compromis, à minima, une proposition d'expérimentation du dispositif. Ce sont les rapporteurs, donc, qui ont retiré eux-mêmes leur amendement à l'issue d'une longue suspension de séance et de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, venu rappeler devant les députés le contexte terroriste, la fatigue des forces de l'ordre, cible de récentes attaques, les policiers ont besoin d'un autre message. C'était pourtant l'ultime occasion d'honorer une promesse du candidat Hollande, lance une députée Europe Écologie Les Verts. Quand je pense à tous ces jeunes dans les quartiers qui ont subi les attentats avant de subir la suspicion, je suis extrêmement triste, martèle une élue socialiste. Moi, je suis effarée par cette proposition, conclut amusé un député Les Républicains, mais encore plus de voir qu'après 5 ans, la gauche ne sait toujours pas si elle est pour ou contre cette mesure.
Abandon des récépissés de contrôle de police, mais les députés ont validé en revanche une autre expérimentation sur 1 an, l'enregistrement vidéo systématique des contrôles avec des caméras piétons. Le Parlement français donnera-t-il enfin un statut aux lanceurs d'alerte? Le Sénat est attendu sur la question la semaine prochaine dans le cadre du projet de loi Sapin 2. En attendant, hier, c'est la justice du Luxembourg qui a reconnu et salué l'action de 2 d'entre eux, les 2 employés français d'un cabinet d'audit poursuivis dans le cadre du LuxLeaks. Ils avaient révélé le système mis en place par le Grand-Duché pour attirer sur son sol des grands groupes à coups de rabais fiscaux. La justice du Luxembourg a donc reconnu le statut de lanceur d'alerte pour Antoine Deltour et Raphaël Allais, mais elle les a quand même condamnés à de la prison avec sursis. Le journaliste qui avait dévoilé l'affaire a quant à lui été acquitté. Les images choc sont devenues leur spécialité. Les militants végétariens de l'association L214 ont diffusé de nouvelles vidéos hier de mauvais traitements subis par des animaux dans des abattoirs. Cette fois, il s'agit de 2 établissements à Pézenas dans l'Hérault et Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. Vidéo prise entre novembre 2015 et mai 2016. L214 annonce avoir porté plainte contre les 2 abattoirs. La préfecture de l'Hérault, de son côté, assure que la plupart des vidéos sont obsolètes. Les pratiques ont été améliorées et certains opérateurs n'y travaillent plus.
France Culture, 8h09, pas de revendication, mais c'est bien la signature de Daesh sur l'attentat d'Istanbul, Amélie Perrier.
Et oui, c'est en tout cas la version des autorités turques et de la CIA. Ankara pointe du doigt le groupe État islamique dans l'attaque de mardi soir. 3 djihadistes ont ouvert le feu dans l'aéroport international d'Istanbul. Ils ont mitraillé les passagers et les forces de l'ordre avant de se faire exploser. Bilan ce matin, 41 morts et 239 blessés. Attaque la plus meurtrière à Istanbul, déjà visée 3 fois cette année. Et ce sont donc davantage les djihadistes que les Kurdes qui sont mis en cause. Camille Lafrance nous appelle d'Istanbul.
Des tirs assortis d'explosions kamikazes. C'est sur ces indices que s'est basé le premier ministre turc Binali Yildirim pour pointer du doigt Daesh. Le mode opératoire rappelle ceux de Paris et Bruxelles en novembre et mars dernier, mais c'est la première fois qu'Istanbul connaît une attaque de cette ampleur. Le groupe État islamique a déjà été accusé d'être derrière plusieurs attentats par les autorités ces derniers mois, dont deux avaient frappé des touristes dans le quartier historique de Sultanahmet et sur la célèbre avenue Istiklal en janvier et mars, tuant en tout 16 étrangers. Des attentats que l'EI n'a jamais revendiqué, pas plus que celui d'octobre dernier qui avait fait une centaine de morts à Ankara. La Turquie, longtemps jugée trop conciliante vis-à-vis de ce groupe armé, fait désormais partie de la coalition internationale contre ses bases en Syrie et en Irak. Les coups de filet se sont multipliés par ailleurs sur le sol turc contre ses membres présumés.
Camille, la France à Istanbul, en Turquie. La lutte contre d'autres djihadistes au Mali. L'ONU décide d'envoyer 2500 casques bleus supplémentaires dans le Sahel dans le cadre de la MINUSMA et de muscler leur mandat plus offensif pour protéger les civils. Car le Mali est toujours le théâtre d'attaques de terroristes islamistes, même après 3 ans de présence de la MINUSMA. Une mission dont le coût humain est très important, Ludovic Piétenu.
Hier, vers 17h local, 5 casques bleus de la MINUSMA ont été tués et 3 ont été grièvement blessés lors d'une embuscade au nord d'Aguelok. Des communiqués comme celui-ci, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en a publié beaucoup en 3 ans. En l'espace de 36 mois, 69 soldats sont morts, soit 2 chaque mois. Pour les Nations Unies, c'est la mission la plus coûteuse en vie humaine de toute l'histoire depuis la Somalie entre 93 et 95. La plus coûteuse en vie humaine des 16 missions déployées aujourd'hui. Pour certains spécialistes, les missions de maintien de la paix ne sont tout simplement pas faites pour des combats asymétriques. Elles ne sont pas adaptées à la lutte antiterroriste, pas adaptées aux attaques surprises des djihadistes. Dans son rapport aux membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU lui-même le reconnaît. Les attaques sont de plus en plus complexes et sophistiquées, disait-il, combinant des dispositifs explosifs placés en bord de route et des embuscades. Il manque une réelle expertise militaire à cette mission. Voilà pourquoi Ban Ki-moon a exigé et obtenu encore plus d'hommes. L'ambassadeur français François Delattre, qui plaidait la cause d'un renforcement de cette mission, a précisé que cette résolution allait permettre le déploiement de contingents européens très spécialisés, comme des forces spéciales, ainsi que des capacités de renseignement, des drones par exemple, et des hélicoptères. La MINUSMA peut, selon ce texte, utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat, avec l'autorisation de mener des combats directs contre les djihadistes, mais seulement, précise le texte, en cas de menaces graves et crédibles.
En revanche, la piste terroriste peu à peu abandonnée à propos du crash de l'avion de l'Egypte Air. Une boîte noire confirme aujourd'hui la présence de fumée à bord, dans les toilettes et à l'avant de la cabine, et le déclenchement d'alerte. Ces informations pourraient conforter l'hypothèse d'une défaillance technique et pas celle d'un attentat, comme les autorités égyptiennes l'avaient évoqué dans un premier temps. L'avion, je vous le rappelle, reliait Paris au Caire le 19 mai dernier et s'est abîmé en Méditerranée au large de la Crète. Il transportait 66 personnes. Une autre carte de l'Europe, la victoire du Brexit il y a une semaine au Royaume-Uni pourrait redessiner certaines frontières. Ainsi, l'Écosse, profondément europhile, pourrait demander à nouveau son indépendance, perdue il y a 3 siècles. L'unique manière pour cette nation de rester dans l'Union européenne, c'est en tout cas l'idée de la chef du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon. Elle s'est rendue hier à Bruxelles. Compte rendu avec notre correspondant Quentin Dickinson.
Celle en qui l'on voit déjà ici une future Angela Merkel est arrivée aux aurores chez le président du Parlement européen. Elle a passé sa journée en rencontres successives avec tout ce qui compte dans cette enceinte et, vêtue des couleurs nationales, le bleu et le blanc, elle s'est taillée un franc succès ici. Nicola Sturgeon.
Aujourd'hui, j'ai constaté un énorme intérêt et j'ai aussi reçu une réaction de sympathie par rapport à la situation dans laquelle se trouve maintenant l'Écosse, confrontée à la perspective d'être expulsée de l'Union européenne contre notre volonté, ce qui n'est ni de notre fait ni notre intention. Donc je suis ici aujourd'hui pour m'assurer que la voix de l'Écosse soit entendue et que la position de l'Écosse soit comprise. J'ai trouvé ici des portes qui s'ouvraient. À mon arrivée, j'ai rencontré le président Schulz et je viens de rencontrer le président Juncker, auprès de qui j'ai également reçu un accueil sympathique.
La première ministre écossaise entend maintenir son pays dans l'Union européenne par toute formule juridique qui reste à trouver, mais l'hypothèse la plus vraisemblable demeure ce matin, celle de l'indépendance de l'Écosse.
Terminons ce tour de la planète en Corée du Nord, où le dirigeant Kim Jong-un a réaffirmé, s'il en était besoin, sa toute puissance sur le pays. Il s'est fait nommer à la tête d'un nouvel organe chapeautant tous les pouvoirs, l'armée, le parti et le gouvernement. Cette décision entérine effectivement l'élévation de Kim Jong-un au rang de chef suprême du pays, comme l'ont été avant lui son père et son grand-père.
Il n'y avait pas beaucoup de suspense.
Hein, effectivement, mais ça se signale, le chef suprême Kim Jong-un. On termine par le temps de ce jeudi, toujours une France coupée en deux, l'automne au nord avec ses averses et ses températures fraîches, l'été au sud avec son soleil, ses grosses chaleurs et parfois quelques orages dans le golfe du Lion. Les températures 13 à 16 degrés ce matin et cet après-midi on attend 18 degrés à Camaret, 22 à Paris et à Bourges, 23 degrés à Bayonne, 26 à Strasbourg, 29 à Lyon et 32 pour Nîmes.